Frères et sœurs, chers amis, aujourd'hui, comme vous le disait Benoît tout à l'heure, de la part de notre évêque et à sa demande, je suis venu confier à Anne-Marie Moisy, membre de votre communauté, la mission de présider les sépultures. Nous connaissons tous le très beau témoignage que rendent partout à travers le diocèse les communautés chrétiennes qui s'organisent pour assurer l'accompagnement des familles en deuil. Beaucoup parmi nous, un jour ou l'autre, ont pu en bénéficier lors de la sépulture d'un proche. Et je voudrais profiter de l'occasion ici pour saluer le beau travail de formation assuré par le service de pastorale liturgique et sacramentelle, notre frère diacre Jean-Yves Moreau, qui anime cette branche du service, comme on le disait tout à l'heure, est présent parmi nous ce matin. Essayons maintenant de voir comment les textes que nous venons d'entendre éclairent cet envoi en mission. Si vous avez été attentif à la première lecture, vous aurez peut-être, comme moi, ressenti le souffle d'espérance qui retentit dans le texte d'Isaïe. « Les nations verront ta justice, on ne te dira plus délaissé, à ton pays nul ne dira désolation ». Ce cri d'espérance retentit aux oreilles du peuple d'Israël, mais il nous rejoint aussi dans le brouillard que traversent parfois nos vies individuelles ou collectives. Le psaume lui fait écho. « Chantez au Seigneur un chant nouveau, racontez à tous les peuples sa gloire, à toutes les nations ses merveilles. » Et l'évangile de Cana, proposé à notre méditation, quant à lui, nous présente une fête qui, sur le point de mal tourner, se change en apothéose grâce à la confiance de Marie. Et puis, en toile de fond, il y a saint Paul. Dans sa première aux Corinthiens, il évoque la grâce de Dieu qui distribue à chacun ses dons en particulier dans la variété des personnes et des services. C'est Marie qui retient mon attention tout d'abord, elle qui nous montre la route à suivre, à nous qui nous situons comme disciples de Jésus. Marie était là, nous dit Jean. Elle est présente à la fête, mais sans s'y noyer. Le cœur en éveil, elle reste attentive aux autres. Elle constate les problèmes qui pointent et en parle à Jésus. En fait, elle ne fait que continuer la mission que Dieu lui a confiée. Rappelez-vous, Dieu lui a demandé, avec Joseph, d'éduquer son fils et d'en faire un fils d'homme. Alors comment s'y prend-elle aujourd'hui? Ils n'ont pas de vin. Femme, que me veux-tu? Marie connaît son Jésus, comme si elle l'avait fait, dirait la sagesse populaire. Elle n'insiste pas. Elle a ouvert les yeux de Jésus à ce qui se passe et l'a placé devant ses responsabilités de sauveur. Sans hésiter, elle s'adresse donc au serviteur, « Tout ce qu'il vous dira, faites-le. » Marie sait en qui elle a mis sa foi. Son espérance est sans limite, parce qu'elle ne compte pas sur ses propres forces. Pleinement présente à ce que vivent ses frères, elle les rend attentifs à la parole de Jésus, leur permettant ainsi de transformer leur deuil en une danse, leurs habits funèbres en parure de joie, comme nous dit le psaume 29. Devant les angoisses qui s'expriment dans l'épreuve du deuil, l'attitude de tout chrétien au quotidien devrait être celle de Marie. Une écoute attentive du souci des autres et le soin de les conduire à Jésus, car il est le Sauveur. Enracinée dans la foi qu'elle a en Jésus, elle s'en remet à lui. Son espérance, le disais-je, est sans limite. Elle ne sait pas ce que va faire Jésus. Ce qu'elle sait, c'est que l'ange Gabriel lui a demandé, ainsi qu'à Joseph, de donner à son fils le nom de Jésus, ce qui veut dire « le Seigneur sauve ». Alors, confiante, elle confie à Jésus le mariage en perdition. Tout ce qu'il vous dira, faites-le. Si, comme Marie, nous voulons présenter à Jésus les situations dramatiques qui se présentent à nous, encore faut-il nous laisser rejoindre par elles, au risque peut-être d'en être troublés, perturbés, remis en question, nous aussi, de l'intérieur. Il nous faudra alors garder une juste distance, bien sûr, comme disent les thérapeutes, pour ne pas nous laisser submerger et pour ne pas non plus nous prendre pour la solution. Ne vaudrait-il pas mieux, d'ailleurs, garder une juste proximité plutôt qu'une juste distance ? Cette proximité qui nous permet, tout en restant à notre juste place, de nous approcher des blessés de la vie et de les conduire à l'auberge avec le Samaritain de l'Évangile de Luc. Notre mission au cœur de la détresse de nos contemporains se résume, comme le dit la première lettre de saint Pierre, à rendre compte de l'espérance qui est en nous. Et cette espérance, elle trouve son ancrage, comme celle de Marie à Cana, dans le nom de Jésus Sauveur. Nous sommes, auprès de nos frères en souffrance, les humbles témoins qu'un autre nous a sauvés. Pour cela, il vous faudra, Anne-Marie, vivre en compagnie du Christ Sauveur et enraciner nos vies dans la prière. L'espérance ne va pas de soi, nous dit Peggy. L'espérance ne va pas toute seule. Pour espérer, mon enfant, dit-il, il faut être bien heureux. Il faut avoir reçu une grande grâce. Bernanos, lui faisant écho, décrit l'espérance comme le fruit d'une conquête. On ne va jusqu'à l'espérance, dit-il, qu'au prix de grands efforts et d'une longue patience. Pour rencontrer l'espérance, dit-il, il faut être allé au-delà du désespoir. Quand on va jusqu'au bout de la nuit, on rencontre une autre aurore. Saint Paul VI disait, paraît-il, que les chrétiens témoins du Christ ressuscité viennent au monde depuis l'avenir. Membres du corps du Christ depuis le jour de notre baptême, nous sommes les yeux et les oreilles dont Jésus a besoin pour rejoindre la réalité d'aujourd'hui, heureuse ou malheureuse. Anne-Marie, vous savez bien sûr que la consolation des affligés et l'ensevelissement des morts font partie des œuvres de miséricorde corporelle et spirituelle enseignées par l'Église. Si vous ne le saviez pas, votre curé vous l'a rappelé tout à l'heure. En communion avec les équipes d'accompagnement des familles en deuil et en vous appuyant sur les dons et charismes variés de chacun, ceux dont nous parlait la deuxième lecture de ce jour, puissiez-vous ne jamais oublier que c'est au nom de la communauté chrétienne, corps du Christ à l'œuvre dans ce monde, que vous êtes envoyés. Nul ne travaille à son propre compte. Votre service ne consiste pas d'abord à organiser le service funéraire comme si vous étiez une annexe des pompes funèbres ou un quelconque prestataire de service. Vous êtes des membres d'une communauté fraternelle qui fait rayonner la lumière de l'Évangile au cœur des situations de deuil qui lui sont confiées. Votre rôle est de redonner à tous et à chacun l'espérance.